La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la troisième mi-temps de Sud Radio comme tous les lundis. Évidemment, pour revenir sur le week-end rugby que vous avez vécu sur Sud Radio, c'était la 26e et dernière journée de Top 14, dernière journée de la phase régulière. Et il s'en est passé des choses pour en parler. Quentin Cabanis, Marius Lefrançois, bonjour messieurs.
Bonjour Cyprien, bonjour.
Évidemment, Marius, on va revenir sur les déçus, les heureux de ce week-end, mais je vais vous rappeler les résultats. Marius est heureux, évidemment, à la fin de ce week-end. 26e journée, donc. Bayonne s'est imposé avec le bonus offensif face à Perpignan, 52-7. Castres s'est imposé face à Toulon, 38-21 avec le bonus également. Lyon perd pour la dernière journée à domicile face à Montpellier, 28-25. C'était juste pour les Montpelliérains. Le Racing bat à domicile Toulouse, 31-20. Pau, Étry, Montauban, 71-35 pour la dernière à domicile et la dernière de Montauban. En top 14, La Rochelle bat le Stade Français 27-22 et Bordeaux-Bègles s'incline à domicile face à Clermont 34-31. Au classement, les enseignements sont que on a le top 6, ça y est, on connaît les phases finales. Toulouse, premier 86 points devant Montpellier, deuxième 82 points. Les deux clubs sont directement qualifiés en demi-finale. Troisième, le Stade Français 79 points. Pau, quatrième 78 points. Le Racing 92 finit cinquième 74 points. Et c'est donc La Rochelle qui finit 6e, 72 points. Clermont, 71 points. 7e, Bordeaux, 8e, 70 points. Et derrière, un peu plus loin, nettement plus loin, Toulon, 59 points. 9e, Castres, 55 points. 10e, Lyon, 53 points. 11e, Bayonne, 51 points. 12e, Perpignan jouera le barrage contre Provence Rugby. 13e, 29 points. Et donc Montauban redescend en Pro D2. Dernier, 7 points. Les barrages, on les connaît, ce sera Stade Français, La Rochelle et Pau, Racing 92. On en parlera un peu plus tard. Messieurs, avant de rentrer dans les détails et surtout de débriefer cette élimination de l'Union Bordeaux-Bègles, première analyse à la fin de cette 26e journée, Quentin, on s'est régalé, c'était un multiplex de dingue.
Ah ben c'était complètement dingue, c'était fou jusqu'au bout, hein. Vraiment le suspense a été complètement dingue. Il y a eu des actions de classe, je pense notamment au drop de Plummer qui permet la victoire de Clermont et donc l'élimination de l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin voilà, que des scénarios fous, des matchs quand même assez impressionnants. Le Racing était un match sympa, la dramaturgie du match de La Rochelle où pendant un moment ils sont éliminés, puis finalement ils reviennent, ils retournent la situation et au bout du suspense ils arrive à s'imposer. Ouais, non, c'était une soirée de dingue. Et au fur et à mesure où les minutes avançaient, le suspense était toujours là. Et donc, ouais, non, on s'est régalé jusqu'au bout sur cette journée Top 14 qui. Voilà, là ça prend son sens de faire tous les matchs au même moment parce que les choses évoluent au fur et à mesure en fonction des résultats d'un autre, tout c'est génial.
Ouais, il y a pas de calcul évidemment et même Montpellier s'est fait peur en gagnant de justesse face à Lyon qui aurait pu potentiellement perdre sa deuxième place au détriment du Stade Français, donc une qualification directement en demi-finale. Marius, multiplex de fou et puis vraiment des scénarios et des classements qui évoluent minute par minute comme le disait Quentin.
Ouais, exactement. C'est comme ça, c'est exactement pour ça qu'on aime ces dernières journées sous mode multiplex. Voilà, alors en Pro D2 c'était peut-être un peu moins le cas cette saison, mais voilà, en règle générale dans le rugby français on a la chance d'avoir des dernières journées un peu folles. Et hier c'était exactement le cas. Moi je veux revenir aussi comme il dit sur le drop de Plummer. C'est une folie dans ce match, c'est ce qui fait tout basculer, qui change tous les classements. La Rochelle c'est pareil, ils sont menés, puis ils repassent devant, puis ils sont menés, puis finalement ils gagnent et donc ils se qualifient et donc ils continuent leur folle remontada depuis plusieurs journées. Effectivement, et puis de toute façon dernière journée, donc tout peut se passer, comme tu l'as dit. Les Montpelliérains ils étaient pas si sereins à Lyon, alors que Lyon avait plus rien à jouer, mais Lyon ces dernières journées, t'as des mecs qui s'en vont, tu veux faire bonne figure devant ton public et voilà.
Mais Montpellier quand même continue cette série de matchs qui est quand même
23 matchs
exceptionnel. Hein,
oui, parce que... non, mais bien sûr, mais dans le ça n'a pas été un Montpellier méga conquérant.
Non,
mais c'est la dixième victoire consécutive.
Non, bien sûr.
Non, mais ça reste très costaud. Là, ils vont avoir une semaine de break, ça va leur faire vraiment le plus grand bien. Je crois que même que Johan Codulo le disait à l'issue du match.
T'imagines, en plus, bon, ils ont remporté la Challenge Cup. Ils sortent de 10 victoires consécutives, dont des victoires à Castres, à Bordeaux ou là à Lyon, donc c'est pas que des matchs cadeaux non plus, donc ils sont sur une série complètement dingue. Là ils vont se permettre en plus d'avoir une semaine pour faire souffler les mecs, ce qui est quand même mérité. Et vraiment Montpellier, attention hein, ouais. c'est candidat fort plus maintenant là, hein, parce que dans le jeu ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de certitude que le Stade Toulousain. Il y a un monde où qui va pouvoir stopper cette équipe du MHR.
L'enseignement quand même de cette journée, c'est donc le double champion d'Europe, le dernier double finaliste de Top 14 face à Toulouse, l'Union Bordeaux-Bègles éliminé. C'est un petit tremblement de terre, une onde de choc.
C'est un énorme tremblement de terre
quand même pour eux. Ils se sont fait battre par Clermont sur la dernière journée, mais 4 défaites en tout dans la saison à domicile. Montpellier, Stade Français, Montpellier, Stade Français, Pau et Clermont, les 4 clubs qui sont devant eux au classement. Il n'y a pas vraiment de surprise.
Il y a finalement une logique.
Ouais, exactement.
Mine de rien, Quentin, cette élimination, elle va faire vraiment mal à la tête, parce que pour le coup, c'était pas du tout dans le plan de bataille.
Ça gâche la fête, parce que mine de rien, on peut pas dire que c'est une saison ratée quand tu remportes un titre, quand tu fais le doublé en Champions Cup. Tu peux pas dire que c'est une saison ratée, mais si on enlève la partie donc Champions Cup, c'est un top 14 raté, parce qu'on parle d'une équipe qui a fait quand même les deux dernières finales du top 14, qui était logiquement au début de saison comme annoncé comme la deuxième voire la première force du top 14 en termes de qualité d'effectifs. On imaginait, je pense tous au moment de la première journée du top 14, que ça ferait à la rigueur Toulouse, UBB, Toulon. Tu vois, c'était à peu près le trio qu'on imaginait en tête. C'est pas du tout ça qu'on a eu.
Oui,
à la
on
fin
les voyait
de la
même
saison.
Demi-finalistes directement.
Voilà, tu vois, on les imaginait surdominés, mais force est de constater qu'il y a peut-être pas une longueur d'effectif aussi importante qu'on l'imaginait. Oui, il y a eu des blessures, mais il y a peut-être eu aussi des erreurs.
Trop de turnover.
Tu vois, il y a peut-être des joueurs qui n'avaient pas le niveau qu'on aurait pu espérer du côté de l'UBB, ce qui fait que quand un Mathieu Jalibert est pas là, c'est compliqué, parce que Carberry c'était censé être la doublure de Jalibert. Libère, ça a pas fait la maille. Du coup, tu te retrouves à retourner chercher Hugo Reuss, qui va jouer des matchs ultra importants en fin de saison, alors que il n'était pas prédestiné à jouer à ça.
Troisième club dans la saison.
Voilà, non, mais tu vois, il y a des trucs où tu as l'impression que.
Donc, quand toi, c'est pas une saison ratée.
C'est pas une saison ratée dans l'ensemble, parce que il y a le titre.
Voilà.
Donc, c'est pas une saison ratée, mais c'est une saison décevante. Mmh. Tu vois, tu peux pas jeter cette année, parce que mine de rien, il y a un titre, que dans un club qui a 20 ans d'histoire, avoir déjà 2 Champions Cup, c'est quand même complètement fou. Mais d'un point de vue top 14, je suis sûr que tu prends tous les joueurs de l'UBB, ils sont évidemment tous aujourd'hui très déçus.
Certains diront que la Champions Cup c'est très bien, les deux Champions Cup c'est très bien, mais que ça ne remplace pas un bouclier de Brennus, et que cette conquête là, n'est pas encore terminée.
Si dans 3-4 ans tu te retournes sur cette génération bordelaise et qu'il n'y a pas un seul Brennus, ce sera décevant, parce que en termes de qualité, quand t'as une charnière de ce niveau-là, quand t'as des ailiers de ce niveau-là,
De
Porter l'a été blessé.
Non, mais quand dans ton effectif t'as ce genre-là.
Mais il y a aussi peut-être un problème de longueur d'effectif dans cette équipe, parce que tu vois que quand Wauquiez est pas là, la touche est en grande difficulté. Que quand Jalibert est pas là,
l'animation
elle doit reposer uniquement sur
Lucu. Lucu a fait son travail, doublé de Lucu quand même.
Oui, non, mais Lucu il peut pas tout faire tout seul non plus.
C'est un joueur fantastique. Il a fait le taf, quoi.
Il est jamais mauvais de toute façon, non. Maxime Lucu. Avec cette équipe de l'UBB, c'est le patron. Et ça, y a rien à redire. C'est un joueur hors norme, mais il peut pas tout faire tout seul. Là, en plus, t'as pas de porteur au centre. T'as pas Van Resburg au centre non plus. Donc voilà, t'as pas ton impact player qui leur a sorti quand même pas mal d'épines du pied sur les dernières semaines. Ben Tamé Funa quand il rentre en jeu. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup d'absences.
Qui s'est fait opérer de l'épaule et c'était la fin de saison.
Voilà. Et aussi, on pourra évidemment remettre en doute peut-être le choix d'avoir fait. Beaucoup la fête a priori après le titre de Champions Cup, ce qui aura forcément laissé des plumes. Et du coup, la semaine dernière à Toulon, le fait d'avoir amené une équipe hybride.
Je pense que sincèrement, ils se sont dit Toulon, si on ramène un bonus, c'est bon et on gagnera contre Clermont à domicile.
Je pense que tout le monde s'est dit mais dans les faits, non. Et aujourd'hui, les 4 ou 5 matchs où tu fais des doubles, des semi-impasses, tu vas les regretter aujourd'hui.
Et encore un petit peu d'humilité, monsieur.
Le couperet aurait pu tomber plus tôt avec une défaite du côté de Bayonne, une défaite à domicile du côté de face à Perpignan.
Ça a été,
le couperet a jamais été très loin toute la saison.
Ils ont joué avec le feu. De toute façon, il n'y a aucun moment où en top 14, on les a sentis surdominés. Et c'est là le problème, parce qu'ils n'ont pas eu cette série énorme qu'ils auraient dû avoir à l'image d'un MHR ou d'un section paloise qui ont eu des phases dominantes, ce qui leur a permis de terminer le championnat un peu plus sereinement. Quoi.
Marius, est-ce que c'est une saison ratée pour l'Union Bordeaux-Bègles ?
Non. Comme l'a dit Quentin, alors effectivement, généralement dans le sport, les défaites ou les déceptions prennent le dessus sur des joies à partir du moment où il n'y a pas de titre. Je m'explique, c'est-à-dire que si La Rochelle, on va dire que c'est une saison réussie. Pourtant, je ne pense pas qu'ils ont soulevé le Brennus. Mais comme ils sont qualifiés dans les moments. Mais s'ils avaient eu une énorme déception.
Vu d'où ils partent.
C'est ça. Là, Bordeaux, bon, il n'y a pas le top 6 à la fin, mais finalement, tu as quand même la double
saison,
couronne européenne. Fin.
Début de saison, tu as deux titres à aller chercher. Ils ont été en chercher un des deux.
Exactement.
Je suis d'accord.
Exactement. Mais après, moi, je suis pas aussi choqué.
On a l'impression que c'est tellement, maintenant que c'est loin la Coupe d'Europe et que du coup, on l'a digéré.
Ouais.
Pas si long. Comme le top 14 a vraiment.
C'est à l'image de La Rochelle, en fait. Quand La Rochelle fait son doublé. Et là, aujourd'hui, on dit pas que La Rochelle est un club mort ou alors je me rappelle plus exactement comment ça s'était passé. Il y a une saison, donc ils perdent la finale contre Toulouse. Mm-hmm. En même temps qu'ils sont champions d'Europe. Sur la deuxième, je sais plus trop, mais enfin.
Ah bah, voilà. Quand une tabac les crucifix.
Les crucifix, ouais, avec la mauvaise montée de Saïtani. Mais moi, en fait, je trouve pas que ce soit une si mauvaise saison. Voilà, il y a quand même un titre. Alors, certes, tu passes pas en top 14, mais en fait, j'ai aussi, alors ça, c'est peut-être que mon point de vue à moi plus là-dedans, mais moi, je les voyais pas aller dans le top 6, donc je suis pas.
Bah, je trouve pas que ce soit un cataclysme. Dans le top 6, à part
depuis quelques semaines qu'on en parle, moi, oui. Je vois Bordeaux, un Bordeaux fragile, Bordeaux très fébrile, à l'image du match contre Bayonne, où là, tu sors, tu te dis, ils ont eu une intervention divine ou un truc, quoi. Parce que tu le refais 10 fois, tu le perds 9 fois.
Là où je suis d'accord avec Marius, c'est qu'on le sentait quand même un petit peu venir, cette non-qualification, parce que nous, dans nos pronostics, ou aussi Jean-Baptiste, tu vois, on commençait à sentir le truc que La Rochelle pouvait le faire. Tu vois, on avait du mal à imaginer le Racing sortir. Tu vois, on savait que de toute façon, il y allait avoir un con dans les quatre. Et bah là il se trouve que clairement ils se la perdent tout seul la semaine dernière, c'est évident.
Mais clairement ce serait presque plus choquant, je trouve, parce que alors si t'enlèves le match du Racing, ils font des grosses perfs ces derniers temps pour les gagner, ouais, et donc le contenu y est, mais t'es pas qualifié. Là où Bordeaux, c'est moins choquant parce que en plus de pas être qualifié, le contenu n'y est pas.
Et puis là Bordeaux, ils avaient leur destin entre les mains, hein, s'ils avaient juste à gagner pour se qualifier. Et ils l'ont pas fait, ils avaient tout prévu sur cette finale là du moins ce match-là, un peu comme déjà un huitième de finale, ils l'ont perdu, ils sont éliminés. Ce qui est terrible, c'est que sur ce match-là, Clermont fait un exploit et finalement, ça sert à rien.
Ouais, pour eux, c'est pour Clermont, moi, je trouve
Clermont,
que c'est plus dur.
Clermont, c'est là où c'est fou, c'est
mais
que
Clermont, ils gagnent la saison la semaine dernière.
Ils gagnent du côté de Montpellier, ils gagnent du côté de Toulouse, ils gagnent du côté de Bordeaux, ils gagnent du côté de Toulon.
Ils gagnent que dans des places fortes.
Ils font des coups,
Ils sont pas qualifiés
à l'extérieur, ouais, et ils sont pas qualifiés.
Ils perdent des matchs bêtes.
Ils perdent des matchs à domicile qu'ils ne doivent pas perdre. Le Racing en fait partie. Il y a également, si je dis pas de bêtises, une défaite à domicile contre Montpellier justement, qui leur coûte cher aussi au niveau des points, 20-17. Donc non, il y a ces défaites là à domicile qui leur fait mal en fait aussi au Clermontois.
Mais vraiment, je trouve que c'est ça me choque presque plus que Clermont n'y soit pas que Bordeaux. Je vois que tout le monde fait des caisses. Alors c'est vrai que Bordeaux est double champion d'Europe,
Champion d'Europe, double finaliste. C'est l'autre gros club. C'est l'un des plus grands. Il y a un nombre d'internationaux.
Sur le papier,
quand tu regardes les listes de Fabien Galthié, c'est Toulouse, Bordeaux au niveau des équipes où il y a le plus de joueurs d'appeler.
Ouais, mais la même chose avec La Rochelle avant. Puis La Rochelle, c'est fini.
Non, il y avait moins de joueurs appelés.
Il y avait moins de Français, mais il y avait des étrangers aussi.
Oui, mais il y avait moins. Non, mais là, je te parle sur les joueurs. Rappeler avec Fabien Galthié, il y a peut-être 15 Toulousains, il y a 10 Bordelais ou 12 Bordelais. Donc, sur les pensionnaires et sur les attentes que tu as d'un club, c'est Toulouse, Bordeaux, très clairement.
Sur les attentes de début de saison, sur cette dernière journée qu'on se réveille en se disant oh, Bordeaux n'y est pas.
La déception, en fait, elle est à la hauteur de l'attente
Et puis, t'es champion d'Europe quand même.
T'es évidemment champion d'Europe, mais justement, il y a ça aussi qui est décevant.
Ça amplifie la déception.
Parce que quand tu vois le niveau affiché en Champions Cup par cette équipe de l'UBB, le niveau affiché en top 14, tu ne peux que être
déçu.
Et
en fait, je pense que aussi quand tu vois la Champions Cup, et que tu les vois battre plus que nettement le Stade Toulousain, tu te dis, s'il y a bien une équipe qui, en demi ou en finale, pouvait battre le Stade Toulousain cette saison, c'était Bordeaux. Toulouse, encore une fois, on va en parler peut-être un peu plus tard, honnêtement, Toulouse, cette année.
Mais comment tu veux juger Toulouse?
On va voir comment. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas vu un Toulouse cohérent.
Oui, ça, c'est ça fait combien de temps que tu n'as pas vu la compo du Stade Toulousain?
Voilà. Donc non, on va en parler. Mais c'est pour ça que je te dis Bordeaux, là-dessus, c'est quand même.
Bordeaux faisait vraiment club phare.
Et c'est, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un des.
Peut-être que c'est la fin d'un cycle.
C'est un des 2-3 clubs qui fait le plus parler.
Je peux pas dire que c'est la fin d'un cycle quand t'es champion d'Europe.
Bah, tu vois, je te dis, moi, je prends l'image du Stade Rochelet.
Oui, mais c'était plus.
Là, ça revient.
Là, t'as des mecs beaucoup plus jeunes là dans cette équipe de l'UBB qui
je veux dire c'est dur, enfin c'est dur d'être au top du tous les ans pendant
l'UBB a au moins encore 2 ou 3 saisons à,
peut-être,
à être,
mais tu vois,
très compétitif avec là, ça cet effectif là, alors que La Rochelle il devait entamer
un changement
quand même des Antonio qui était quand même pas jeune, Carbarlo qui était quand même plutôt en fin de course.
Je trouve qu'on est dur avec Bordeaux, quoi.
Non, on est exigeant avec Bordeaux,
ouais, ben peut-être un peu trop,
ben on est exigeant à la hauteur du talent des mecs.
Parce que aussi,
t'as peut-être actuellement le meilleur joueur du monde qui joue à
quand
Bordeaux,
t'as Bielgaré, quand t'as Penaud, quand t'as Jalibert, quand t'as Lucu, quand t'as Gazzotti,
regardez,
quand
t'as sur, Mathieu, quand sur t'as toutes les équipes de top 14 historiques, t'en as aucune qui arrive, excepté Toulouse, mais que je mets ailleurs, qui arrive à être tout le temps dans le top 6 chaque année pendant des années et des années. D'accord. Toulon, là, il n'y est pas, alors qu'il y a des années c'était fort. Castres n'y est pas, alors qu'ils y étaient souvent.
On parle de grands clubs.
Il y a du roulement. Il y a toujours du roulement, c'est le principe du top 14. Non, c'est un championnat dur, c'est un championnat extrêmement compliqué sur la longueur.
C'est pas pour rien qu'entre cette année et l'année dernière, un seul club a fait les deux top 6, c'est Toulouse. L'année dernière, il y avait Bayonne, Toulon.
Exact,
Bordeaux, il y avait Clermont aussi dans le top 6, il m'en manque un cinquième.
Il n'y avait pas le Stade français?
Bordeaux, c'est ça. Donc ça fait en gros entre l'année dernière.
Bordeaux, Bayonne, mais le Stade Clermont. Français perd pas contre.
Non, pas l'année
c'est
dernière.
C'est quand qu'il perd avec la. C'était il y a 2 ans que second rate sa pénalité.
Je vais regarder. Mais ce que
dans
je veux. Ce
Castres
que je
refais pas. Dans Castres, ils font top 6 ou pas la saison
dernière? La dernière, ils font top 6.
Et tu vois, donc t'as des Castres, des Toulon, des Clermont, tous ces trois clubs, tu peux te dire, s'ils sont pas, c'est aussi. C'est pareil, Toulon, dans ce cas-là, c'est scandaleux pour Bordeaux, c'est scandaleux pour Toulon.
Mais Toulon, c'est pire.
C'est scandaleux pour.
Toulon, les imaginait top 3 aussi.
Pour Castres,
le top 6.
Castres n'a pas la même longueur d'effectif que Toulon.
Peut-être, mais c'est ça que je veux dire, tu vois. Montpellier, ils sont pas tout le temps, le Stade français. N'ont pas toujours été, alors que c'est aussi un gros club historique.
Oui, non, mais ça arrive. Mais voilà, là, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu un écart en fin de cycle. Là, on a l'impression que c'est un accident.
L'année dernière, messieurs, le top 6 était Toulouse, Bordeaux, les deux premiers. Toulon, Arriviron, Bayonnais, 3-4, 5-6, Clermont, Castres. C'est-à-dire que sur les 6 de la saison dernière, il ne reste que Toulouse.
C'est dingue,
Montpellier,
ça,
Pau, Stade Français, Racing.
C'est ça. Et Bayonne avait battu Clermont en barrage et avait perdu en demi contre Toulouse.
Exactement. Donc voilà, ça montre aussi que, eh bien, chaque année, comme ça change, mais néanmoins, on s'attendait à ce que Bordeaux soit l'un des deux clubs avec Toulouse qui soit, on va dire, qui soit vraiment habitué et qui soit un qualifié quasiment d'office.
Bah après, c'est bien, on
explose. C'est vrai, ça prend du temps.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire mieux la saison prochaine tout en étant sur les deux tableaux, tu vois?
Laurent Marty, il en a parlé. Est-ce qu'on ne doit pas donner la priorité au top 14 sans envoyer une équipe C en Champions Cup? C'est la réflexion.
Oui, voilà. Est-ce que tu es obligé d'envoyer ton équipe type en Afrique du Sud?
Voilà.
Tu peux faire les deux, il faut plus de. Enfin, tu peux faire les deux.
Mais tu peux pas faire les deux, regarde Toulouse.
Bah ouais.
Cette année, ils n'ont pas fait les deux.
Oui, c'est vrai.
Toulouse
fait très peu de doublés. Ils en ont fait qu'un, je
crois.
Non,
mais on a l'impression que Toulouse, cette année, ils n'ont pas fait grand-chose non plus.
Ça reste relativement compliqué. Mais je pense qu'il faut.
Ils font défaite contre Glasgow, défaite contre les Saracens, défaite en quart de finale contre Bordeaux. Ils n'ont pas envoyé une équipe type à chaque fois.
En fait, Toulouse priorise sûrement le top 14.
Bah, très clairement.
Tout en faisant souvent tourner, quand même.
Tout en avec des doublons.
Ouais, mais après, l'exemple de Toulouse est trop dur parce que c'est vraiment le club.
Je te dis pas que c'est le bon exemple. Je te dis juste que je pense que Bordeaux, ils ont fait un doublé. Est-ce qu'ils veulent viser le triplé ou est-ce qu'ils veulent viser une vraie option, une vraie volonté d'aller chercher?
Et puis, Toulon avait fait un doublé.
Mine de rien, Toulouse a un avantage. C'est que chaque équipe qui se déplace à Toulouse envoie l'équipe B. Donc déjà, t'as la moitié des matchs, t'as quasiment une victoire à soi.
Les gens se rendent compte qu'en envoyant une équipe une, on peut gagner.
Mais bien sûr, c'est mon combat, messieurs, merci. Faut arrêter de balancer les matchs. Bordeaux a balancé des matchs. Et ben voilà.
Oui.
C'est comme ça. Bon, Toulon a pas balancé de match, ils ont juste été.
On s'est posé sur eux.
Ils ont balancé et en plus, ils ont pas été bons.
Et Toulon, quand ils font leur triplé en Coupe d'Europe. En même temps, ils sont pas deux fois en finale top 14 et ils en gagnent une.
Non, ils en gagnent une et ils font deux fois finale. Une perdue contre Castres, une gagnée contre Castres sur la fin du triplé.
En 2013.
Ils perdent en 2013
contre Castres.
Rico Cotte entre les poteaux là.
Ils gagnent en 2014.
Là, quel souvenir. En plus après ils veulent prendre Rico Cotte et puis il leur dit non. Oh là là, quel souvenir.
Voilà, Castres qui a fini évidemment, on peut vous rappeler.
Il faudrait qu'ils aient plus de profondeur d'effectif.
Par une victoire
sinon,
contre ce même RCT dont on
Castres qui a fini 10e cette saison de Top 14. On a parlé de on s'est posé la question sur est-ce que c'est une saison ratée pour l'UBB, mais est-ce qu'on peut poser également une question, est-ce que c'est déjà une saison réussie pour La Rochelle et le Racing 92?
Ben non, réussi pour La Rochelle en fait, c'est ça le scénario est tellement énorme.
On n'est pas au même niveau.
Bah non, parce que t'as dû péter de partout. De toute façon, c'est le principe de ce sport, j'ai l'impression maintenant aujourd'hui en 2026 le rugby. Mais La Rochelle c'est magnifique parce que c'est ça, champion des blessés. À un moment, tu te retrouves, je sais plus combien au classement, mais t'es en pleine chute. Tout le monde commençait à remettre en question Ogara, à dire est-ce que c'est l'année trop. Nous les premiers, exactement. Est-ce que c'est l'année trop. T'as l'impression que la fameuse fin de cycle dont je parlais, où La Rochelle a été au plus haut.
Il y a eu une fin de cycle à La Rochelle.
Et puis se retrouvait presque au plus bas. Et puis là, t'as une mission remontada de dingo qui se met en place. Aussi. Jean-Baptiste Elissal qui parle qu'ils vont se qualifier au début. Tout le monde lui rit pas au nez parce que on a quand même grand respect pour ce monsieur. Mais
on dit, il est supporter
de La Rochelle.
Il connaît quoi au rugby?
Il envoie, en
février, il dit La Rochelle va se qualifier.
Personne n'y croyait trop. Mais en fait, énorme.
Jean-Baptiste dose un peu, quoi.
Pour tout vous dire, Quentin Cavani, ça a été condescendant, il lui a fait une tape dans le dos en disant oui Jean-Baptiste, allez, il faut sortir maintenant du studio.
C'est pas vrai parce que je suis quand même assez rapidement monté dans le train, dans le train Rochelet, mais non.
Par
mais
peur après, de perdre son emploi.
Bizarrement aussi, le renouveau de La Rochelle coïncide aussi avec le retour de certains cas.
Bah évidemment,
quand
ça c'est évident.
La Rochelle peut aligner sa troisième ligne titulaire, bah ça a absolument rien à voir parce que Boudéran,
on peut juste parler de Nolan Le Garec, 8 essais en 5 matchs.
Le Garec, bizarrement quand Le Garec marche sur l'eau, Antoine Astaire redevient un joueur exceptionnel.
Non mais
West repasse à l'arrière. On a l'impression qu'il a joué ce poste-là toute sa vie et que ça, il fait partie des meilleurs.
Il a plus la tête à l'est, donc c'est beaucoup mieux.
Niniashvili répond présent. Delin Lidzela. Donc voilà, à partir du moment où La Rochelle rentre ses joueurs, même si je pense que devant, ça manque encore un
la
peu
profondeur.
Du tonnage.
Skelton.
Tu sens Skelton, que l'arrêt de carrière d'Antonio aussi aura fait mal. Mais si tu rajoutes 2-3 pièces comme
ça. Donc pour vous, saison réussie de La Rochelle, même s'il n'y a pas victoire au barrage.
Saison sauvée. Le Racing, je ne sais pas si c'est là que tu voulais.
Oui, justement. Est-ce que le Racing, pour toi, c'est une saison sauvée aussi?
Le Racing a les moyens de viser un peu sauvé, plus haut, je pense.
Ouais, c'est ça. Au vu de la saison, tu te dis que le Racing. Pour moi, j'ai le. Alors, c'est un peu ingrat pour le Racing parce qu'ils ont finalement tout aussi bien bossé que La Rochelle, voire mieux sur le long de la saison. Mais c'est comme si tu as un très bon élève, tu sais t'attendre à ce qu'il ait des très bonnes notes. Et donc, tu n'es pas forcément plus content que ça pour lui. Tu dis juste, c'est normal. C'est là pour moi le cas du Racing, là où le cancre Rochelet a réussi à s'en sortir et à avoir les encouragements. Mais c'est assez ingrat pour le Racing, mais j'ai l'impression que pour l'instant le Racing fait une saison correcte, une saison en fait je suis pas forcément plus surpris parce que je les attendais là.
On les attendait là, mais il y a quand même des joueurs qui sortent leur carte du jeu, tu vois la charnière
Carbonneau.
Carbonneau, tu vois, il est jeune.
Gibert,
à un moment on a l'impression qu'il était cramé, qu'il était au placard. Il revient,
c'était le titulaire.
Voilà,
et là il revient, il met 3 sur 4 face au
Perche,
un essai.
Où on avait mis Précian Télé devant lui, quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que bon, je veux pas être
mais c'est souvent comme ça pour Antoine Gibert, il a toujours des périodes un peu compliquées, mais il quand il revient, il a une force mentale qui est assez impressionnante.
Après il a aussi le fait qu'il a ce club là dans la peau.
Ah oui, ça c'est
le mec est né à Sèvres, tu peux pas faire
formé à Boulogne, il est très vite basculé au Racing.
Voilà, donc c'est son club, quoi. Donc forcément il est attaché, c'est les mecs
qui
en font dans des clubs.
Saison sauvée pour La Rochelle, bonne saison pour le Racing.
Un petit tour de plus pour le Racing et la saison sera réussie.
Justement, on en parlera plus longuement vendredi dans la causerie pour les barrages. Est-ce que justement Pau et le Stade Français qui ont fini 3 et 4e qui vont recevoir les barrages, est-ce que ces équipes-là doivent impérativement gagner le barrage à domicile pour valider une saison? On parle, je fais notamment référence à ces deux clubs. Le Stade Français les dernières étaient en plus qu'en déliquescence et en délicatesse.
Pour moi, le Stade Français fait une bonne saison. Hein.
Mais du coup, est-ce que si Pau et le Stade Français s'arrêtent là, barrage, pas plus haut, c'est une saison validée? On pense à des Palois qu'on n'attendait pas du tout dans le top 6 et aussi haut, et à des Parisiens qu'on ne voyait peut-être pas jouer les troubles faites en haut du tableau et aller chercher une potentielle deuxième place jusqu'à la dernière journée.
Mais c'est toujours pareil, c'est en fonction des dynamiques et du. Si tu parles de club, le Stade Français doit impérativement gagner son barrage, là où Pau peut le perdre parce que c'est une première qualif en phase finale et c'est un club jeune. Mais c'est pareil, Pau, en fait, là, si tu prends la saison de Pau par rapport à l'effectif, le travail qu'avait fait Picaronis et tout, c'est une saison super réussie. Mais en fait, à force de la réussir comme ça, il nous donne envie.
Comme le barrage est à domicile, je pense que si tu perds en barrage, elle est frustrante. En
fait. Surtout qu'ils ils n'ont pas perdu à domicile.
Ils sont vaincus à domicile.
Non, puis surtout, on parle de deux équipes qui jouaient quasiment jusqu'au bout une possible
deuxième place.
Donc tu vois, compliqué c'est pour Pau, mais oui, évidemment.
Mais je veux dire, il y a encore trois semaines, ils étaient
avant le match contre Montpellier, évidemment, ils étaient deuxième. Ouais.
Voilà, donc on se disait Pau peut le faire, etc. Il met des pièces là.
Non, mais j'ai essayé de réimiter quand il a fait non.
Ouais, mais c'est un nom qui m'est propre. En tout cas, non, moi je pense que la section paloise doit espérer plus. Mais je suis quand même assez inquiet parce que je pense que cette équipe du Racing a les armes, notamment en termes de densité physique, pour leur faire.
Non, ils ont les armes.
Mais c'était pas loin de gagner la Pau. Hein.
Oui, mais la Pau.
Attention, ça se joue un essai de Laclaya à la 78e. Ouais. Et ensuite, le bonus pour le Pau se joue à la dernière seconde avec un essai de Gaëtan sur une réception d'Aaron Grandidier où le Racing fait n'importe quoi dans les dernières secondes.
Chaud.
Donc, c'était vraiment pas loin.
Cette équipe du Racing, quand elle est en mode dévastatrice, ils peuvent faire très très mal.
En défense,
il va falloir que les Palois soient prêts à prendre des troncs d'arbres.
Après, là, t'as mis au repos des mecs. Il n'y avait pas Brombeau, il n'y avait pas Tisson.
Oui, mais. En face, ils ont été obligés de faire jouer 18 gifs la semaine dernière. T'avais Ficou à l'aile, tu vois, par exemple. Donc, tu peux te prendre quand même, quand tu te chopes des Naitouvi, Tuisova et compagnie pleine face, ça doit mouiller un petit peu, ça doit faire un petit peu mal aux épaules. Donc, il va falloir que les Palois soient prêts au combat, mais il va falloir aussi que les arrières du Racing 92 s'échauffent un peu la nuque parce qu'ils vont devoir regarder souvent en l'air parce qu'à mon avis, ils vont être abreuvés de grandes quilles dans le ciel palois. Mais voilà, moi je suis assez inquiet quand même pour cette équipe de la section paloise face au Racing 92 et le Stade Français me paraît assez prêt finalement, assez mûr alors que tu vois, ils sortent d'une mauvaise saison. Mais j'ai l'impression qu'en termes d'expérience, etc., ils ont les armes pour pas paniquer dans ce match.
De toute façon, on parlera un peu plus longuement puisqu'on aura un peu les compos ce vendredi. À noter que dorénavant, il n'y a plus qu'un seul joueur.
Personne ne va faire l'impasse.
Personne ne va faire l'impasse. Un seul joueur aura joué.
Il y en a un qui fait l'impasse.
26 journées.
Le Stade Français peut faire ça.
Non, non.
Boden.
On en a marre.
Maxime Boden aura joué les 26 journées de Top 14. Ouais. C'est le seul joueur qui aura joué toutes les journées cette saison.
Attends,
parce que je viens de
vérifier. T'embêtes pas, il y a un monde où il va jouer toutes les phases finales aussi.
Bon, ça peut être un match.
Ça peut être trois.
Despérès, lui, n'était pas sur la feuille de match pour cette 26e journée. Mais en tout cas, voilà, Maxime Bonnon qui aura joué toutes les journées.
Comme qui avait commencé en faisant toutes les minutes.
On a parlé du haut du classement, on va parler un peu du bas du classement, puisque ce week-end, on a aussi eu la finale de Pro D2, un nouveau champion de France, un nouveau pensionnaire de Top 14,
quelle
c'est
équipe.
Le retour de Vannes après la saison où ils étaient montés. Ils sont remontés directement. Vannes, 18-14 face à Provence Rugby. Petit mot rapide, messieurs, sur cette finale. On attendait un Vannes bien plus conquérant et finalement, ils ont joué un peu avec la peur jusque dans les dernières minutes, Quentin.
Ah, ils se sont fait peur, ça c'est une évidence face à cette équipe d'Aix-en-Provence. Mais au final, ils ont assuré l'essentiel, ils sont qualifiés et puis ils ont fait une saison exceptionnelle. Donc on ne peut que les féliciter. Mais c'est vrai que sur la finale, à un moment, tu te dis, c'est con, on a l'impression qu'ils ont peur d'atteindre l'objectif, quoi. Qu'il faudrait pas qu'ils ratent la dernière marche, parce que cette équipe d'Aix-en-Provence, si tu les laisses exister dans un match, ils vont pas s'en priver. C'est ce qu'ils ont fait. En face, il y a eu quand même quelques petites erreurs, mais on peut aussi se rappeler de l'en avant de Coville en fin de première période, qui aurait pu changer complètement la physionomie du match, parce que s'il saisit du ballon, il y a essai. Aix-en-Provence passe devant à la pause et c'est pas la même
dans
deuxième
la tête,
mi-temps,
c'est pas la même
tu
chose,
vois.
Ouais.
Mais on sent aussi que la saison a été longue pour les deux équipes parce qu'à la fin ils étaient tous complètement cramés.
Mais c'était une belle finale, Marius, une finale vraiment engagée
et complètement
une finale, quoi.
Ouais, voilà, avec de la pression, du suspense.
Tu sentais le truc,
la pression de l'événement et
à
de la montée.
Fin de match, il y en a un, tu te dis ils peuvent se caguer dessus à tout moment.
Mais c'est ça.
Mais non, mais ouais, c'est surtout que Aix-en-Provence a fait une énorme finale.
Il y a pas fait des énormes phases finales.
Des énormes phases finales de manière générale, c'est sûr, mais Moi, je m'attendais à une volée, peut-être pas une volée, mais
un petit plus 10, plus
15. Ouais,
une victoire sereine,
simple.
À la 60e, on sait qu'on est gagné, voilà. Et 70e, on sait que c'est
pire. Mais pas du tout, les Provençaux, ils sont arrivés avec du caractère, ils ont une densité physique, attention. Il fait un match encore de Jobard.
J'espère que la mêlée de l'USAP est prête, parce que.
Et malheureusement, t'as Coville qui marche sur l'eau toute la saison, qui fait une finale un peu. J'ai pas compris cette stratégie des coups de pied là. Parce qu'à mon avis, c'est une consigne. Je vois pas comment il a pu continuer à en faire autant.
Je pense sincèrement que, mine de rien, il a beau dire ce qu'il veut.
Dans la tête,
je pense que dans la semaine qu'il a vécue avec ses sujets sur son départ de Provence pour aller à Vannes, son retour, finalement il reste, finalement il part pas. Je pense que, mine de rien, même si tu veux essayer de faire abstraction, ça te pèse un peu.
C'est sûr.
Justement, vous êtes projeté un peu parce que le week-end prochain, dimanche prochain, 18h, Provence Rugby Perpignan, match de barrage, match d'accession pour Provence, match de maintien pour Perpignan. Plus serré qu'on ne le pensait.
Beaucoup plus. Moi, j'avais dit si Vannes ne perdait en finale et allait en barrage, je voyais Vannes gagner le barrage contre Perpignan. Et finalement, là, je pense que ça va être beaucoup plus serré que ce que je pensais. Après, il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'en fait, il va y avoir quand même énormément de supporters perpignanais au stade, même si c'est à
les Catalans ils vont se déplacer,
c'est certain. Donc finalement, parce que moi j'étais le premier à dire qu'il y avait ce truc aussi de place, quoi, enfin
de public
et puis finalement, ouais, en fait je pense que il va y avoir beaucoup de Catalans, peut-être plus que si ça avait été à Vannes, donc
c'est plus près.
Et puis il y a pas la en respectant quand même les supporters provençaux, c'est pas totalement la même ferveur. Donc ça reste le deuxième public de l'année, je crois, au niveau de l'influence,
ils étaient premiers avant que Vannes redescende, et cette année c'est juste derrière Vannes.
Vannes premier, deuxième et Brive 3.
Donc en fait, on ne le pense pas, mais en effet il y a une vraie ferveur autour.
Il y a du monde, le stade est régulièrement plein, etc. Donc
ami Aixois, excusez-moi.
Là on sait que les places qui seront prises par les Catalans, c'est des places qui seront vendues aux Catalans. Les supporters avec soi,
ils vont
pas remplir leur stade, ça,
il n'y a pas de doute.
Le seul truc, c'est qu'il y a peut-être la blessure du pilier avec Green.
Oui, le pilier de Provence Rugby.
Qui s'est pété. J'ai un petit peu de mal avec la prononciation du nom.
On va dire le pilier.
Voilà, le pilier qui s'est blessé, ça peut faire un petit peu de mal parce que il tenait quand même pas mal cette mêlée.
Mais Quentin, j'ai une question. 3 mois de préparation pour Perpignan. 5 jours de préparation pour Provence Rugby.
Oui, mais les dynamiques.
Non, mais ils sont pas du tout. Ils ont pas fait la préparation comme ils voulaient, l'USAP.
Non, pas du tout.
Hein, ils sont encore pris une volée ce week-end.
Ce week-end, c'était.
Il aurait fallu qu'ils se rassurent. Parce que de toute façon, ils étaient là.
Je pense qu'il a pas mis un seul joueur qui commencera week-end prochain.
Je pense qu'ils ont tout misé sur ce match. Mais en face, t'as une équipe qui est sûre d'elle, qui connaît ses plans de jeu, on sait ce qu'il va faire avec son Provence.
Pour toi, c'est plus serré, il n'y a pas photo, Perpignan n'est pas garanti de se maintenir.
Alors, Perpignan n'est pas garanti, non.
Parce qu'il y a un match de rugby.
Je dois mettre une pièce, je la mettrai quand même sur les Catalans. Parce que déjà, il y a quand même une qualité d'effectif, mais ça on le dit depuis le début de la saison, mais c'est pas un effectif qui doit faire 13e de top 14, ça c'est une certitude. Donc on se dit que sur un match pour sauver un club, ne pas être l'équipe qui aura fait descendre Perpignan, ils peuvent se mobiliser et aller faire un résultat.
Regarde, en face à Nice, ils pouvaient se dire la même chose.
Oui, mais
encore une fois, moi je parlais de dynamique, les Montois, c'est ça, ils ont une dynamique catastrophique sur leur dernière journée. Ils passaient leur temps à perdre. On avait l'impression qu'ils étaient au fond du trou et que quand ils pouvaient se remonter, en fait, ils continuaient à creuser.
Mont-de-Marsan, ils avaient encore l'espoir.
Et là, c'était
jusqu'à 2-3 journées de la fin, ils avaient encore de l'espoir de se maintenir, de ne pas passer par
le barrage. Il y a eu le coup des points pour Biarritz qui les a mastraqués aussi, je pense.
Mais alors que Perpignan, ça fait 6 mois. Qui savent qu'ils vont jouer ce barrage, donc tu vois, ils sont dans l'état d'esprit, on a une finale à jouer, et quoi qu'il arrive, si on gagne notre saison, limite elle sera sauvée.
Donc toi, moi je pense, mais ça on en avait parlé avant la finale de Pro 2, je pense que c'était plus compliqué pour Perpignan d'aller à Vannes que d'aller du côté de Vannes.
C'est une évidence, mais Vannes est une meilleure équipe qu'Aix-en-Provence.
Donc
aussi.
Du coup, on en parlera vendredi dans la causerie, mais je pense que Perpignan a plus d'armes que Aix pour se maintenir en top 14.
Mais on sait que Aix aime arriver dans la peau de l'outsider
Et tout retourner.
Ils ont joué toute leur com sur les phases finales sur ça, etc. Donc ils vont arriver, le petit poussé, mais s'il faut aller casser les bouches, ils vont le faire.
De toute façon, messieurs, ce sera dimanche 18h à vivre sur Sud Radio, évidemment. Merci Quentin Cavanis, merci Marius ou François d'avoir accompagné dans cette troisième mi-temps. Vendredi, la causerie pour annoncer les barrages. Je vous rappelle le programme samedi 21h pour Racing 92, dimanche 21h Stade Français La Rochelle, 18h dimanche Aix en Provence Perpignan, pour savoir qui de ces deux clubs jouera en top 14 la saison prochaine. D'ici là, retrouvez toutes les informations, toutes les émissions rugby sur sudradio.fr, l'application Sud Radio, et également sur les réseaux sociaux Sud Radio Rugby. Très bonne semaine à toutes et tous.